Ici, à la Bourse de Paris, les opérateurs font grise mine, peu de volume échangé, une baisse importante du CAC 40.
Et tout de suite, l'édition, le journal de l'émission.
Enfin, samedi, dernier jour de la semaine.
Il y a quelque chose qui me chiffonne. Vous voyez ?
Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue pour ce nouveau numéro du journal radiophonique amplifié. Un numéro à la diffusion toute chamboulée. Bah oui, tout transistor a mis les mains dans le cambouis pour la journée de la radio, ce qui a un petit peu ralenti nos autres activités. Mais votre émission d'actualité ne vous a pas oublié, rassurez-vous. Nous sommes toujours là, tous les cinq, puisque je suis une fois de plus entouré de Lino, Céline, Maëlys et Jérémy. Alors comme d'habitude, vous entendrez une petite revue de presse, assurée par mes soins cette semaine, avant de retrouver l'enquête de Jérémy. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Alors cette semaine, c'est un rapport sur les énergies renouvelables et le nucléaire qui est sorti récemment et c'est ça qui t'intéresse aujourd'hui, je crois.
Oui, voilà, on se projettera en 2050.
Oh, on va voyager dans le futur et sans DeLorean. Alors Lino, c'est toi après Jérémy qui nous parlera d'économie. Alors c'est quoi le sujet du jour ? J'ai recherché mais j'ai pas trouvé.
Ah, t'as peut-être utilisé le mauvais navigateur de recherche. En fait, c'est la Commission européenne qui a attaqué Google pour abus de position dominante.
Alors, effectivement, j'ai dû utiliser Bing et pas Google. C'est pour ça que j'ai rien trouvé. Alors on passera ensuite à nos éditorialistes. Et pour l'édito politique aujourd'hui, quelqu'un qui ne m'a pas dit de quoi elle voulait parler. Bonjour Céline.
Bonjour Clément. Alors oui, on va parler d'une victoire française. Vive la France Clément, vive la France, on l'a fait enfin.
D'accord, bon, je pense qu'on en saura plus tout à l'heure.
Effectivement, oui.
Et enfin, l'édito international. Alors Maëlys, tu nous emmènes en Méditerranée aujourd'hui, n'est-ce pas ?
Oui, actualité brûlante et douloureuse, les naufrages... meurtrier en Méditerranée.
Oui, évidemment, ça occupe aussi la presse ces derniers jours. Et évidemment, chers auditeurs, comme d'habitude, les 10 dernières minutes de l'émission seront consacrées à une discussion sur les différents thèmes qu'on va balayer aujourd'hui.
Bonsoir à tous dans l'actualité ce soir.
La revue de presse de Natacha Polony avant de retrouver...
Reportage, on se retrouve après.
Alors on commence par la revue de presse, comme d'habitude, avec ce nouveau drame en Méditerranée. Ces migrants qui ont fait naufrage en tentant de venir en Europe, et dont Maëlys vous reparlera tout à l'heure. Alors Le Monde, comme Le Figaro, développe des articles assez techniques sur le sujet. Le Monde rapporte les propos de la commissaire européenne à l'immigration. Les événements nous ont dépassés. Ah bon ? Et détaille les pistes envisagées en urgence par l'Union européenne. Et quand le journal demande pourquoi les responsables européens, je cite, « ont attendu des catastrophes humaines, pourtant maintes fois annoncées », la commissaire à l'immigration élude et la commissaire aux affaires étrangères philosophe. C'est difficile parfois d'être un responsable politique. Alors Le Figaro, lui, jamais à court de bonnes idées, nous propose des solutions, citant le très conservateur Premier ministre australien Tony Abbott. Le seul moyen d'empêcher ces tragédies est de mettre fin à l'arrivée des bateaux. Il est urgent que les Européens adoptent une politique très ferme. Bah oui, hein. L'Australie, elle pratique une politique très ferme envers les migrants, elle n'en accepte absolument aucun.
Une solution radicale et sans nuance.
Et oui, Lino, à l'opposé de la Une de Libération, mercredi 22 avril, une choc. Méditerranée, pourquoi il faut légaliser l'immigration ? Dans une interview, Emmanuel Auriol, économiste à Toulouse, explique qu'il faudrait vendre des visas aux migrants pour donner un cadre légal à cette immigration nord-sud. Et elle argumente avec l'idée que, de toute façon, les pays européens manquent de main-d'œuvre dans beaucoup de secteurs, comme le BTP. Cela aurait, selon elle, pour autre avantage de dégonfler drastiquement les réseaux de passeurs qui profitent de la misère de ces migrants. Et sur le drame en lui-même, le journal rappelle que l'opération Triton de surveillance des côtes, menée par l'Union européenne, est bien moins efficace en termes d'aide aux migrants en chaloupe que Mare Nostrum, le programme italien, stoppé il y a peu parce que peu de moyens. Et si Triton a remplacé Mare Nostrum, c'est aussi parce que l'Union refusait de participer à son financement. Et pendant que des gens se noient en Méditerranée, d'autres passent à la télé.
Tu penses à Bachar el-Assad ?
Oui, évidemment. Bachar el-Assad qui est passé sur France 2 lundi 20 avril. Une grande interview pilotée par un grand journaliste, David Pujadas, présentateur du journal de soir de la dite chaîne. Et ce qui m'a frappé, eh bien, ce n'est pas que le président syrien développe une fois de plus sa rhétorique habituelle sur « les opposants sont des terroristes », etc. Elle est connue. Mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est que Le Monde loue, eh bien, tenez-vous bien, la ténacité de David Pujadas lors de cette interview. Le présentateur du journal de France 2 a pourtant fait preuve de ténacité, puisque, tenez-vous bien, il a montré à Bachar el-Assad des photos des armes utilisées par le régime. Hein. Et si David Pujadas pouvait s'avérer aussi combatif lorsqu'il modère des débats politiques en France, peut-être que la chaîne et la politique française s'en porteraient mieux. Enfin bref, Beaucoup de bruit pour rien, dit Libération à propos de cette interview. Le journal pointe du doigt la participation de France 2 au plan de communication du président syrien, qui a multiplié ces derniers mois les entretiens avec des médias occidentaux. Je cite Libération. Il y a 2 ans, Bachar el-Assad était un dictateur assiégé. Aujourd'hui, grâce à ses interviews, le voilà relancé dans la voie d'une reconnaissance et de sa légitimité. Et Libération cite David Pujadas, qui parle pour cette interview d'un véritable exercice journalistique qui participe à l'information. C'est plutôt un exercice de style.
Et en France en ce moment, quoi de neuf sous ce beau printemps ?
Eh bien, beaucoup de bruit pour rien aussi, selon le Figaro, mais pas à propos de l'interview de Bachar el-Assad, à propos d'une autre, celle de François Hollande sur Canal+. Dans son éditorial du 22 avril, Gaëtan de Capelle pointe la grande éloquence du chef de l'État au moment où la loi sur le travail va être discutée à l'Assemblée. Le gouvernement renonce à réformer le code du travail, titre encore le journal. Et Gaëtan de Capelle développe un argumentaire assez classique de la droite libérale. Il faut en finir avec les seuils sociaux, les 35 heures, le statut d'intermittent du spectacle. Bref, un éditorial qui lui aussi fait beaucoup de bruit pour rien. Surtout que, visiblement, le code du travail, s'il y a un endroit où il est bien inexistant, c'est à l'Élysée même.
Comment ça, à l'Élysée ?
Eh bien, c'est Marianne qui révèle la chose, dans le numéro de la semaine du 17 avril. Après un dossier racoleur et assez mauvais sur ce que c'est qu'aimer la France, laissant beaucoup d'hommes politiques développer des propos creux inintéressants, l'hebdomadaire fait la lumière sur l'absence d'élections professionnelles au palais, l'absence de règlement intérieur, l'absence de sécurité, notamment en cuisine, ou de contrat de travail pour certains. Les personnels peuvent être en effet être remerciés, en clair virés, notamment les contractuels qui travaillent dans les jardins ou la cuisine. Alors si la Cour des comptes a déjà pointé le problème, sa résolution tarde à venir, et après ça, le gouvernement veut libéraliser et réformer le pays.
Ah, sympathique tout cela.
Oui, comme tu dis Lino, et peu encourageant. Alors cette revue de presse est terminée, mais l'information évidemment continue. Alors Jérémy, tu vas nous parler énergie aujourd'hui, sur un sujet que Mediapart a sorti il y a peu, il est question d'écologie.
Mais oui, d'écologie, d'innovation et de la France en 2050, rien que ça. Alors c'est le site Mediapart qui nous en a donné l'idée, en publiant il y a 15 jours un article intitulé « Énergie, le rapport caché sur une France 100% renouvelable ». Titre alléchant, hein. Il s'agissait en fait de rendre compte d'un rapport de l'ADEME. Bon, j'imagine que personne ici ne sait ce que c'est.
Non,
l'ADEME, c'est l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. Une structure qui existe depuis plus de 20 ans, qui est rattachée au ministère de l'Écologie et de l'Énergie, justement. Et sa mission, eh bien, c'est tout simplement d'organiser les politiques publiques pour tout ce qui concerne l'énergie et le développement durable.
Et pourquoi Mediapart s'est intéressé à ce rapport ?
Eh bien avant tout parce que, à les en croire, l'ADEME a essayé de cacher ce rapport sous le tapis.
Tiens donc.
En ne le rendant pas public, alors que c'était prévu initialement. Mediapart a donc mis en ligne ce rapport, ce qui a contraint l'ADEME à le publier aussi à son tour. Alors l'agence prétend, par la bouche de son président, qu'il fallait mener des études complémentaires pour présenter un document scientifiquement rigoureux. Mais Mediapart n'en croit pas un mot. Le site web pense plutôt que les conclusions de ce rapport pouvaient gêner certains acteurs de l'industrie française, notamment dans le domaine nucléaire. Alors bien entendu, impossible de savoir qui a raison dans l'histoire, c'est l'interprétation de Mediapart contre les dénégations de l'ADEME.
Et concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport ?
Justement, n'écoutant que mon courage, j'ai décidé d'en faire la lecture moi-même.
Jérémy, chevalier des documents administratifs.
C'est ça. Alors c'est un document d'une centaine de pages intitulé « Vers un mix électrique 100% renouvelable en 2050 ». Bon, rappelons déjà ce qu'est le mix électrique, parce que c'est de cela qu'il est question. C'est tout simplement un outil qui nous informe sur ce que nous utilisons pour produire notre électricité. Par exemple, en France, dans notre mix électrique, nous utilisons environ 75% de nucléaire. Donc la part du nucléaire y est écrasante. Or, en plus d'être potentiellement dangereux, le nucléaire emploie l'uranium comme combustible, donc une ressource fossile. Et l'objectif à très long terme pour tous les gouvernants, ce serait évidemment de remplacer tout cela par des énergies renouvelables. Et c'est cela que le rapport tente de mettre en place.
Et qu'est-ce que ce rapport propose comme solution ?
Leur hypothèse de départ, c'est d'affirmer qu'on peut obtenir un mix électrique entièrement composé d'énergies renouvelables d'ici 2050. Le tout en satisfaisant la consommation et sans trop augmenter les tarifs. Et la conclusion du rapport, c'est que tout cela est parfaitement envisageable, ce qui va donc contre la doxa qu'on entend souvent sur le sujet.
On ne peut pas dire « je défends l'industrie et je remets en cause la filière nucléaire ». La filière nucléaire, c'est la garantie pour vous d'une énergie à bon marché. On n'a pas le droit de rompre le consensus politique de 65 ans.
Voilà, c'était Sarkozy pendant la campagne présidentielle. Parce que le problème, bien entendu, il est aussi politique et économique.
Or, le rapport montre que c'est technologiquement et économiquement possible de passer au tout renouvelable. Alors, impossible d'entrer dans le détail technique qui me dépasse largement, je vais pas le nier, mais disons schématiquement qu'il s'agirait de se concentrer sur l'éolien et sur le photovoltaïque. Le rapport passe à ce sujet en revue les scénarios les plus abominables qui soient, par exemple une sécheresse, une vague de froid ou une absence prolongée de vent dans le pays, et il conclut à chaque fois que cela n'entrave pas la possibilité de s'appuyer uniquement sur des énergies renouvelables.
Et du coup, vu ces solutions, est-ce qu'il est possible que ce rapport change quelque chose à notre politique énergétique ?
Malheureusement, il y a assez peu de chances. Déjà parce qu'il n'est sans doute pas sans faille, ce rapport, du point de vue de sa méthodologie. Bon, alors on passera avec indulgence sur le fait que l'étude porte sur un marché où, je cite, « la concurrence est libre et non faussée ». Après tout, on a le droit d'y croire et ce n'est qu'une hypothèse de travail. Mais seuls les critères techniques sont pris en compte. Le rapport ne tient pas compte, par exemple, de l'impact sur les emplois, alors que c'est précisément sur ce qui risque de mal passer dans la filière nucléaire. Et surtout, ce rapport ne survient sans doute pas au bon moment pour le gouvernement. L'Assemblée devrait examiner en mai une loi sur la transition énergétique présentée par Ségolène Royal. C'est un texte qui prévoit la fermeture de certains réacteurs nucléaires, mais pas de manière autant radicale. Et il y a aussi la conférence des Nations Unies sur le climat qui se tiendra à Paris à la fin de l'année. Or, le gouvernement aimerait bien qu'il en sorte quelque chose, et pour cela, mieux vaut éviter de froisser quiconque en s'attachant à des propositions trop drastiques. C'est assez mal parti, par conséquent. Du coup, projet de substitution, en même temps que le mix électrique, c'est peut-être la classe politique qu'il faudrait renouveler d'ici 2050.
On a peut-être un peu d'espoir. En tout cas, merci Jérémy. On revient sur ce sujet tout à l'heure. Maintenant, c'est l'heure d'écouter Lino, parce que c'est l'heure de la chronique éco. Alors, il y a un peu plus d'une semaine, la Commission européenne a envoyé une liste de griefs à Google, Lino. De quoi s'agit-il ?
Oui, c'est le résultat d'une longue enquête menée par la Commission qui a duré à peu près 5 ans. La liste de griefs est une mise en accusation pour non-respect des règles de la concurrence européenne. Ce n'est pas la première entreprise du numérique, Google, qui fait face à une telle accusation. Souvenez-vous du cas Microsoft, que vous avez peut-être même étudié à l'école, au collège, qui a été reconnu coupable dans les années 2000 d'imposer aux constructeurs et aux utilisateurs son logiciel Internet Explorer. Ici, il est reproché à Google d'avoir sciemment sapé la concurrence avec son service Google Shopping. Vous savez, quand vous tapez le nom d'un produit, par exemple un smartphone, des prix s'affichent sur Google. Et Google le fait sans vous le demander, mais va tout de même en tirer un revenu, puisqu'il ne va pas le faire gratuitement. D'autres plateformes de comparaison des prix existent, mais ce qui est reproché à Google est de ne pas les avoir mises en égalité avec sa plateforme. Bref, d'avoir abusé de sa position dominante sur les moteurs de recherche. Ce qui lui avait déjà été reproché par l'autorité de concurrence américaine, la FTC, qui avait finalement abandonné les charges. Et d'ailleurs, la commission s'intéresse à Android, puisque par exemple, Google a suspendu la possibilité d'accéder à certains bloqueurs de pub, type Adblocker.
Et il y a de nombreux monopoles dans le numérique. Et ces monopoles dans le numérique, en quoi ils sont différents des anciens monopoles industriels ?
Alors, pour l'instant, c'est une question à laquelle on ne peut pas encore apporter une réponse pleinement satisfaisante. Mais commençons par les points communs. La dynamique d'émergence des nouveaux et des anciens monopoles est assez similaire. On a des industries à rendement d'échelle croissant. En fait, les coûts fixes d'investissement sont importants, mais ensuite les coûts marginaux sont nuls ou quasi nuls. N'en déplaise à Jeremy Rifkin, un essayiste américain assez connu, le phénomène du coût marginal zéro n'est pas nouveau. Il y a donc un avantage à la concentration lorsqu'on a des rendements d'échelle croissants. Plus vous produisez, plus vos coûts moyens, donc le profit, est élevé, au moins jusqu'à un certain seuil. Par exemple, jusqu'à ce que vos capacités de production soient saturées et que vous deviez, pour reprendre l'exemple de Jeremy, construire une nouvelle centrale. Donc sur ce point, pas vraiment de nouveauté dans le principe, même si la dynamique de concentration dans le numérique est beaucoup plus explosive.
Et avec le numérique, ce monopole est acquis par l'innovation ?
Et oui, et c'est la bonne vieille destruction créatrice soulignée par l'économiste Schumpeter il y a une cinquantaine d'années, même un peu plus. Uber, Facebook, Apple, Google, etc. ont tous innové pour obtenir une position dominante. Ils bénéficient alors d'une rente et c'est en fait normal. En fait, ils vont s'approprier une part du bien-être social qu'ils ont créé par l'innovation. Il ne faut pas négliger les bienfaits qu'apportent ces innovations. Pensons à nous, apprentis chercheurs à l'ENS, qui sommes très heureux de disposer des divers services de Google, comme Google Scholar, Google Book, pour rechercher des références pour notre mémoire, voire notre thèse, si on est un peu plus âgé. Et l'innovation offre une position dominante qui va être temporaire à l'entreprise, par exemple via les brevets.
L'entreprise dominante ne peut-elle pas continuer à innover pour être évitée de rattraper par des imitateurs ?
Et si l'entreprise continue à innover pour conserver sa position dominante, tant mieux pour la collectivité. C'est ce qu'a fait en partie Google en améliorant sans cesse ses algorithmes de recherche. Cela en fait renvoie à une théorie économique qui est la théorie du monopole contestable. Une entreprise peut être en monopole et tout de même produire le même prix que si elle était en concurrence, si elle se sent mise en danger par l'entrée de nouveaux acteurs. Et c'est aujourd'hui l'esprit du droit de la concurrence. On accepte les monopoles s'ils sont contestables, parce qu'ils peuvent être aussi efficaces que la concurrence pure et parfaite, mais en plus favoriser l'innovation, ce qui est bénéfique. Et si une entreprise abuse de sa position dominante, alors le régulateur montre l'écrou et les sanctions peuvent être lourdes. Jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial, soit, dans le cas de Google, une amende qui peut aller jusqu'à 6 milliards de dollars. Et pour éviter que les abus ne se reproduisent, une dislocation de l'empire industriel peut être décidée.
Et les régulateurs sont-ils adaptés au numérique ?
Jusqu'à présent, je n'ai fait qu'énoncer des points qui rapprochent le numérique des vieux monopoles. Mais il y a une différence importante qui donne une rente qui est très difficile à estimer à ces monopoles, qui est la captation de l'information. Dans un monde où l'information est asymétrique, où l'entreprise ne connaît pas la valeur qu'un client donne à un bien et ne connaît pas ses goûts, et où la recherche de l'information est coûteuse, la concentration de l'information offre à Google, Facebook, etc. une importante source de revenus. La valeur de cette information est en fait même impossible à quantifier pour les régulateurs parce que cette concentration de l'information a d'abord des effets positifs. Elle facilite le travail de recherche pour le consommateur qui peut donc payer moins cher ses biens. Elle facilite le travail du chercheur, encore une fois. Mais elle a aussi des effets très négatifs et c'est le débat sur le terrorisme ou le renseignement en ligne montre les effets que peut avoir cette concentration. C'est impossible pour les régulateurs à quantifier, d'autant qu'il n'y a pas vraiment de prix de marché. Le service est gratuit pour le consommateur et il est payant pour l'offreur. Et en fait, un paiement qui n'est pas de marché, mais qui dépend de chaque situation. Les vieux monopoles ne disposaient pas de cette information. Ils étaient obligés de tâtonner pour découvrir de l'information pour pouvoir discriminer par les prix, ce qui les soumettait à des erreurs. Avec le numérique, ce n'est plus le cas. Voilà la grande différence entre les vieux et les nouveaux monopoles.
Et c'est une différence un peu effrayante. Et Barack Obama a reproché à l'Europe de chercher, en sanctionnant Google, à compenser son manque de dynamisme dans le secteur du numérique. C'est ça l'enjeu du procès ?
Alors c'est vrai que la politique économique européenne a raté le tournant du numérique. Les Américains sont beaucoup plus dynamiques dans ce domaine, et de même que les Chinois et même les Indiens. En fait, il y a d'abord un effet d'échelle. Ce sont des marchés intérieurs énormes, alors que la France, l'Allemagne, prises séparément, sont trop petites. Mais l'Union européenne, après tout, aurait la taille requise. Donc il ne serait pas absurde de mener une politique de l'innovation à l'échelle européenne. Et c'est insuffisamment fait. Les atouts sont là. Par exemple, dans certains pays, comme la France, mais aussi l'Allemagne, un socle important de capital humain. Mais cela impliquerait, pour avoir une vraie politique du numérique, de dépenser plus dans l'enseignement supérieur, la recherche fondamentale et appliquée. Et ce n'est pas assez fait. Ce sont des politiques d'investissement de long terme qui sont les plus à même de générer les points supplémentaires de croissance potentielle. Mais ce sont les grands oubliés des gouvernements européens. Donc pour en revenir à la phrase d'Obama, je ne sais pas si c'est une mesure orientée par le protectionnisme, mais il est certain que c'est absurde de penser que cela est un programme suffisant de politique industrielle.
Et oui, ça y est Clément, on l'a fait, la France l'a fait.
Mais quoi exactement Céline ? Qu'est-ce qu'on a fait
mais
encore ?
Mais attends, on l'a vendu, encore et encore, et à l'Inde en plus.
Mais on a vendu quoi ? Je suis pas sûre de bien saisir.
Attends, mais est-ce que tu suis l'actu un peu ou pas ?
Bah je crois, oui.
C'est le Rafale bien sûr, bon.
Ah !
Laisse-moi te mettre au courant,
oui, mets-moi un peu au courant.
Alors le 10 avril dernier, pour la visite du Premier ministre indien Narendra Modi, François Hollande a fait une déclaration surprise. C'est confirmé, New Delhi commande 36 Rafales à la France, notre plus célèbre avion de chasse et aussi un de nos échecs industriels parmi les plus cuisants.
Oui, c'est devenu une légende, le Rafale, hein, et pas vraiment une bonne légende.
Alors, je te l'accorde, Clément, et on va reprendre tout ça du début pour nos auditeurs.
Oui, faisons ça.
Alors, le Rafale, c'est du Made in France, comme l'aime Arnaud Montebourg. Il est assemblé près de Bordeaux, ce qui a donné une bonne occasion à Alain Juppé de s'auto-congratuler sur Twitter le 10 avril dernier. Et il est aussi fabriqué à 20% dans le Val d'Oise du député socialiste Philippe Doucet, à Argenteuil exactement. Alors, ce Rafale fait travailler en France environ 7000 personnes chez Dassault, et ses 500 sous-traitants aussi. Alors,
ce qui n'est pas rien.
C'est vrai. C'est le sixième avion de chasse en fait conçu par Dassault Aviation depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, à raison d'un nouveau modèle lancé tous les 10 ans.
Ah oui, quand même.
Alors en fait, le projet naît d'un désaccord entre les Européens, tiens donc, sur un modèle commun d'avion de chasse et se trouve lancé officiellement en France en 1988. Il succède ainsi à des illustres prédécesseurs, je nomme l'Ouragan, le Mirage 3, le Mirage 4, le Mirage F1 et le Mirage 2000. C'est Marcel Dassault qui a trouvé le nom Marcel Dassault père qui a trouvé le nom du Rafale avant sa mort. Sans doute, dans son esprit, cela faisait-il référence au Rafale de vent, comme l'indique un proche de la famille. Vous admirez l'originalité.
Effectivement, mais Céline, on pourra en revenir à sa commercialisation.
J'y arrive tout de suite, Clément.
D'accord.
Alors, le Rafale, c'est très simple. Il a déjà pris 10 ans de retard sur le programme initialement prévu. Les premiers avions de son livret comptent 2006 et l'État doit parallèlement réviser ses premiers besoins à la baisse. Ce qui est une mauvaise nouvelle donc pour le constructeur. Mais ce n'est que le début. Les premières critiques attaquent ses coûts de fabrication. Donc, de prix de 30 ans, il aurait coûté à chaque Français environ 500 euros.
Ah oui.
Alors bon, précision utile, je tire ces chiffres d'un papier des Échos qui compare aussi le coût du concurrent américain du Rafale, soit 5000 euros par américain. On est vraiment dans un autre ordre de grandeur.
On voit la puissance militaire et industrielle.
C'est vrai. Mais ce qui plombe vraiment notre avion de combat, c'est l'échec des exportations à l'étranger. C'est-à-dire que depuis les années 2000, le Rafale se fait systématiquement, alors je dis bien systématiquement, détrôné par ses concurrents étrangers, alors qu'il est le plus sophistiqué sur le marché. Alors, la faute à qui ? Eh bien, sans doute parce que la France n'a pas le même poids qu'un géant comme les États-Unis pour peser dans les négociations. Et puis aussi parce que le Rafale n'avait pas encore fait ses preuves.
Attends, tu es en train de nous dire qu'on a essayé de vendre un avion de combat qui n'a jamais mis les pieds dans une zone de guerre ?
Oui, mais en fait non, ça c'était avant. Dans l'industrie de l'armement, vois-tu, on a des principes. Un avion de combat n'est jamais vendu avant qu'il ne soit en service dans l'armée de son pays. Ce qui va devenir le cas au milieu des années 2000 avec la France. Sauf qu'en fait, ça n'a pas plus encouragé les acheteurs. En 2007, la France subit quand même un échec retentissant avec le Maroc, qui lui préfère les chasseurs américains. Et en 2007, vous vous en souvenez, c'est Nicolas Sarkozy qui est au pouvoir et qui décide, ni une ni deux, d'installer une war room à l'Élysée pour vendre coûte que coûte les Rafales.
Ouais, c'est devenu une question d'honneur. Hein.
C'est ça.
Et ça a fini par marcher, ou pas ?
Alors non, Clément, et c'est ça qui est drôle avec les Rafales en fin de compte. On dirait du comique de répétition, en fait.
Oui, un petit peu.
Nicolas Sarkozy veut vendre ses avions de chasse partout où il va, au risque de braquer ses interlocuteurs, alors camouflé au Brésil, échec auprès des Émirats Arabes Unis. Il va même jusqu'en proposer 14 à Muammar Kadhafi de passage à Paris, qui lui aussi les a refusés.
Ah bah c'est de l'acharnement, dis donc. D'où cette malédiction du Rafale.
Oui, alors mais cette malédiction, depuis cette année, c'est bien François Hollande qui semble la conjurer. Alors on peut penser que sous ses airs nonchalants, notre bon président est en fait un commercial impitoyable, ou alors chercher des causes dans les changements géopolitiques récents. Déjà en début d'année, en février, la France a conclu la vente de 24 exemplaires à l'Égypte du général Sissi, auxquels viennent donc s'ajouter les 36 avions vendus récemment à l'Inde. On reparle même du contrat avec les Émirats Arabes Unis qui se détournent en fait des Américains suite au rapprochement de ces derniers avec l'Iran et qui cherchent donc à s'armer. Alors c'est en fait un peu la même chose pour l'Égypte et pour l'Inde qui veulent maintenant diversifier leurs fournisseurs. En un sens donc, on peut dire merci aux Américains.
Et en France alors, elle a été prise comment cette annonce ?
Alors évidemment, la droite et la gauche se félicitent en cœur. J'ai déjà parlé d'Alain Juppé et de Philippe Doucet. Et on pourrait en fait multiplier les messages de chauvinisme de tous bords avec peut-être un peu de réserve de la part de la droite qui rappelle que bien sûr, ces accords ont été obtenus grâce à un énorme travail en amont, au mandat précédent de la droite.
Évidemment.
En plus, l'État français pourra se permettre d'acheter moins d'avions à Dassault puisqu'ils sont réservés à l'exportation. C'est donc une économie en fait non négligeable pour les comptes publics. C'est aussi une excellente nouvelle pour l'industrie de l'armement française, une industrie qui depuis début 2015 voit ses ventes exploser. Alors, on peut quand même toujours compter sur les écologistes pour râler ou faire les rabat-joie. Emmanuel Cos, par exemple, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, a traité le Rafale de, je cite, « ratage industriel », c'est quand même un peu fort,
oui.
Et a fait remarquer qu'on ne les vendait pas aux pays les plus démocratiques du monde. Et là, c'est moi qui euphémise.
Oui, tu euphémises un petit peu, effectivement. Et qu'est-ce qu'on peut conclure de cette histoire, alors, Céline ?
Alors, d'un point de vue éthique, absolument rien. Et je ne m'y engagerai pas d'un point de vue politique.
Ce sera pour un autre numéro.
C'est vrai. D'un point de vue politique, par contre, et pour l'image de la France, on peut dire plus de choses. Car la France, en fait, a toujours eu du mal à conclure des contrats à l'étranger, avec, entre autres, des réacteurs d'arrivée en Inde, des centrales nucléaires aux Émirats Arabes Unis, encore eux, une ligne TGV et un centre de traitement de déchets nucléaires en Chine, des frégates à la Grèce, donc, ce sont tous des projets en fait plus ou moins avortés ou en panne en ce moment. Et les technologies françaises, en fait, malgré notre savoir-faire, sont difficilement exportables. Soit à cause de concours de circonstances plutôt malheureux, par exemple Fukushima, ou à cause de vraies bévues diplomatiques, en l'occurrence le Brésil en 2007. Il n'en reste pas moins que se pose aussi la question du transfert de technologies. Par exemple, pour le récent contrat des Rafales, donc avec l'Inde, le président indien avait exigé la mise en place d'une chaîne de fabrication en Inde avec près de 500 sous-traitants, ce qui faisait vraiment monter la facture.
Oui.
Et comme il n'a pas cédé sur ce point, Dassault a vu sa commande passer de 176 à 36 Rafales. La concurrence est donc relancée. Et puis, il y a aussi des différents politiques qui s'interposent. Le Mistral, par exemple. Ça dit quelque chose, Clément ?
Rafraîchis-moi un peu la mémoire.
Alors, la France en a promis à la Russie, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, mais aujourd'hui, François Hollande se refuse à les livrer, ce qui pourrait nous revenir extrêmement cher. On parle quand même de près d'1 milliard d'euros de dédommagement qu'on devrait verser à la Russie.
À peu près 3 musées des confluences, quand même.
Chers auditeurs, rappelez-vous les confluences. Et aussi, en même temps, ça pourrait gravement entacher la fiabilité de notre industrie de l'armement. On ne sait pas trop, en fin de compte, ce qui est le pire. Et puis, c'est un dossier à suivre, évidemment.
Oui, évidemment, un dossier à suivre. Merci Céline pour ton édito. Tu n'es malheureusement pas avec nous pour la discussion. Mais la discussion aura quand même lieu, chers auditeurs, ne vous inquiétez pas. On retrouve maintenant Maëlys. Maëlys, on te retrouve pour ton édito qui nous emmène en Méditerranée.
Coucou Clément. Alors moi, je ne suis pas très douée pour les chroniques sérieuses et tristes. Donc je vais essayer de faire de mon mieux. Alors moi, aujourd'hui, je vais revenir sur les drames de ces derniers jours qui ont mis la presse et l'Europe sans dessus-dessous. Je veux bien sûr parler des naufrages de bateaux de migrants en Méditerranée, notamment celui qui, dans la nuit de samedi à dimanche, a fait plus de 800 victimes qui fuyaient la misère et qui tentaient de rejoindre l'Europe. C'est 4 fois plus que la tragédie aérienne de Germanwings le mois dernier. Et au total, 1600 personnes sont mortes noyées depuis janvier en Méditerranée. C'est plus que le Titanic.
Oh la vache.
Alors que l'immigration par la Méditerranée et les drames qu'elle implique n'avaient droit jusqu'à présent qu'à quelques lignes dans les journaux, régulièrement certes depuis la catastrophe de Lampedusa en octobre 2013 qui avait fait 350 morts, mais n'accédait jamais au statut de grande catastrophe méritant la une des... sur plusieurs jours, leur traitement médiatique a soudainement changé. On n'a plus de mots assez forts dans la presse pour qualifier l'hécatombe et pour pointer du doigt l'inertie européenne. Ainsi, dans un article paru sur Rue89, pour Noël ma mère, l'Europe est au mieux coupable de non-assistance à personne en danger, au pire de crimes contre l'humanité, l'expression est lourde de sens. Chacun désigne un coupable. Pour Hollande, qui était l'invité du supplément de Canal+, dimanche, ce sont les passeurs, qualifiés de terroristes. Matteo Renzi, chef du gouvernement italien en première ligne, les a également qualifiés dimanche d'esclavagistes, pratiquant un racket criminel à détruire de toute urgence. On aurait envie de leur dire « et les migrants ont tout ça ?» Lorsqu'on est prêt à dépenser 5000 euros pour fuir son pays, à risquer sa vie une fois, deux fois, 10 fois ou 100 fois, s'il le faut pour monter dans un rafio vers l'inconnu, c'est que la situation est catastrophique en amont. Le commerce morbide et criminel des passeurs n'est que la résultante des inégalités nord-sud, des conflits et des violations systématiques des droits de l'homme qui ravagent l'Afrique et le Moyen-Orient, sans susciter de réactions concrètes de la part de l'Union européenne. Ce matin sur France Inter, la journaliste Léa Salamé accusait, elle, Bernard-Henri Lévy et Nicolas Sarkozy, alors président de la République, d'avoir renversé le gouvernement de Muammar Kadhafi et déstabilisé le régime politique qui, je cite, « faisait le boulot », entre guillemets, en arrêtant les migrants et en endiguant leur départ sauvage et désespéré des côtes libyennes. Là aussi, on peut tout de même se demander si se reposer sur des dictatures pour empêcher les réfugiés et les migrants d'arriver à nos frontières est une solution. Certes moins meurtrière, mais plus louable et pérenne que de fermer les yeux ou de secourir ceux qui embarquent. Du coup, autre question, l'Europe ne devrait-elle pas intervenir dans les conflits politiques et humanitaires qui ravagent le monde ? Me direz-vous ? La réponse semble tout aussi ardue. On reproche l'intervention des Occidentaux en Libye et au Mali, et leur non-intervention en Syrie d'autre part, soit leur ingérence géopolitique et leur absence de réaction. Aucune stratégie miracle à 100%, et on est tout aussi avancée de ce côté-là. Les ONG accusent l'Europe et la mission Triton mise en place par l'Agence européenne de protection des frontières, Frontex, quel joli nom, à la mi-octobre. Alors que l'Italie n'en pouvait plus d'assurer seule les vagues de migration par bateau avec la grande opération de sauvetage et de soins d'urgence Mare Nostrum, mise en place après la tragédie de Lampedusa, l'Europe ne lui a substitué qu'une mission aux moyens bien moins importants, misant sur la répression et les contrôles des frontières maritimes, en complet décalage avec le drame humanitaire que représentent les migrations. Si l'Europe a sans conteste failli dans sa mission de protéger les vies et de porter secours aux migrants, se contenter de sauver des vies dans l'urgence n'est peut-être pas une solution durable si elle n'est assortie à une politique internationale globale, le gros point faible de l'Europe dont les membres n'arrivent jamais à se mettre d'accord sur une stratégie commune. L'Europe est encore montrée du doigt par les spécialistes et le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies qui lui reproche de ne pas prendre sa part de responsabilité en délivrant des visas au compte-gouttes pour les réfugiés qui fuient leur pays en guerre. Depuis dimanche, on entend le discours soudain à la mode, d'où l'ouverture totale des frontières pour des personnes physiques, telle qu'elle est pratiquée pour les biens ou les capitaux. Lino en parlera plus que moi. Cette solution serait économiquement viable à long terme et n'entraînerait peut-être pas un afflux massif, le fameux appel d'air tant redouté en Europe, selon certains les économistes que tu as cités tout à l'heure, Clément. Néanmoins, les pays européens s'y refusent. On peut également s'interroger sur la situation économique et sociale qui en résulterait à court et moyen terme et sur la manière dont les populations européennes réagiraient à l'heure de la montée des extrêmes, certains conflits étant aussi charriés par les migrants eux-mêmes. La semaine dernière, 12 chrétiens originaires du Nigeria et du Ghana auraient été jetés par-dessus bord par leurs compagnons musulmans, obligeant les autres chrétiens du bateau à constituer une chaîne humaine pour ne pas connaître le même sort. Ce crime isolé a fortement ému l'Italie et n'a pas manqué de faire le jeu de l'extrême droite dans le contexte explosif actuel de la montée du djihadisme. Bref, face à tous ces dilemmes, à toutes ces accusations, qui fleurissent, face à la vague d'indignation facile aussi venant des médias qui semblent découvrir un phénomène qui n'est pourtant pas nouveau, il nous reste à nous interroger sur nous, notre indifférence de citoyens européens. On se demande pourquoi tant d'indifférence à l'égard de ces migrants et pourquoi si peu de mobilisation pour les défendre. Peut-être parce que malheureusement on s'identifie plus facilement à quelqu'un qui achète ses billets et qui meurt dans un accident d'avion en rentrant de vacances, plutôt qu'à quelqu'un qui risque le tout pour survivre, alors que le tour d'esprit inverse serait nécessaire, voire salutaire.
Serait-on un peu trop habitué au confort en Europe ? On en reparlera en tout cas. Merci Maëlys. Alors maintenant, chers auditeurs, on va lancer la dernière partie de notre émission, une dernière partie qui devient traditionnelle, vous y êtes habitués. C'est parti pour la discussion.
Et alors maintenant, sur la série...
Un doodle ?
Comme les autres, je trouve ça assez maladroit. C'est
fort conservatisme patrimonial et
c'est... On ne se moque pas.
On fait avec ce qu'on a.
Je cherchais une contrepétrie avec urne et
j'y passe tous les jours.
Alors on va peut-être commencer par le sujet de l'enquête, ce rapport qui est sorti sur le nucléaire et la transition énergétique donc il y a 2 semaines. Donc un rapport que Mediapart, comme l'a dit Jérémy, a sorti. Ce n'est pas la première fois que Mediapart sort des infos qui étaient censées rester confidentielles. Une réaction.
Enfin, moi je voulais juste revenir sur les pertes d'emploi en fait suscitées par l'abandon du nucléaire. Enfin, je sais pas trop, mais un des grands arguments aussi de la transition énergétique, c'est que ça relancerait aussi la croissance. Je sais pas.
Donc ça créerait beaucoup d'emplois.
D'emplois dans la rénovation des bâtiments, etc. Je sais pas si Lino, tu peux nous éclairer là-dessus.
Honnêtement, on ne sait pas trop. C'est certain, ça générera des investissements. En fait, ça dépend de l'intensité. L'intensité en emploi de ces investissements. Alors oui, pour la rénovation des bâtiments, c'est certain. Il suffit de voir, par exemple, Confluence. Donc le bâtiment, c'est en effet beaucoup d'emplois. Pour d'autres champs, c'est moins certain. Enfin, une fois qu'on a bâti une éolienne, il y a pas besoin d'énormément de gens. Mais c'est la même chose. Donc en fait, c'est très difficile à estimer, surtout qu'on est sur des horizons très longs. Donc il va y avoir du progrès technologique. On ne sait pas quelle forme il va prendre. Donc toutes les études qu'elles démontrent l'un ou l'autre, ça dépend beaucoup des hypothèses sur l'emploi.
Oui, et puis Jérémy, tu pointais aussi que le rapport avait des trous méthodologiques.
Le rapport mentionne à peine cette question des emplois. Il indique, et ça c'est certain, qu'il y a un vivier d'emplois d'ingénieurs notamment, mais oui, c'est pas le sujet du rapport, ça, en fait.
Oui, de toute façon.
Donc c'est vraiment un angle mort.
Que ça va générer des emplois. Après, est-ce que c'est plus ou moins intense
voilà, est-ce que
le
ça
nucléaire,
va équilibrer le nucléaire, voilà, c'est ça.
Voilà. Ouais. Je pense que en fait, faudrait baser sur un autre le débat sur la transition énergétique sur un autre plan.
Oui, et puis c'est une question qui est beaucoup plus politique actuellement qu'économique. On a entendu Nicolas Sarkozy dans le petit extrait qui est passé. Ségolène Royal aussi, ces derniers mois, s'est relativement fait connaître pour ses positions sur le nucléaire.
Et il y avait un numéro d'une excellente émission d'économie sur France Culture dédiée au nucléaire sur en fait la crise du nucléaire, parce que il est en crise actuellement, en particulier Areva va très mal, et qui était très intéressant.
Il y a l'EPR à Flamanville, voilà. Notamment qui grève beaucoup.
Et en Finlande encore plus.
Oui, c'est vrai qu'il y en a trois là-bas, je crois.
C'est ça. Donc si vous êtes intéressé par cette question, vous avez ce très bon numéro. Enfin, je vous conseille d'écouter l'émission et en particulier ce numéro.
Alors ça, c'est une question à laquelle je ne peux absolument pas répondre, et peut-être que l'un d'entre vous pourra m'éclairer. Areva, tu disais qu'elle allait mal. Qu'est-ce qui ne va pas actuellement chez Areva? C'est sur le long terme qu'elle a du mal à voir? C'est des investissements qui ont été mal faits?
Alors, il y a un peu de tout, en fait. Il y a la conjoncture qui est en fait le choc Fukushima qui a nuit à Areva.
Oui.
Mais normalement, si la gouvernance était bonne, ça n'aurait pas dû poser tellement de problèmes. L'entreprise se serait adaptée. Or, il y a eu des erreurs stratégiques, en particulier sur l'EPR, le fait qu'on livre clé en main une centrale alors qui avec de grandes innovations. Mais livrer clé en main, donc, à un certain prix. Et en fait, il s'avère que le prix a été sous-estimé parce qu'on ne savait pas le coût.
Parce qu'on ne sait pas le construire, oui,
voilà,
tout simplement.
Et ce n'est pas fini de peser sur le budget d'Areva.
D'accord.
Voilà. Donc, il y a à la fois des facteurs exogènes et des facteurs qui relèvent de l'entreprise elle-même.
Qui relèvent aussi de l'entreprise elle-même. On va procéder dans l'ordre, hein. On continue avec Google. Moi, la question que j'aurais envie de vous poser, est-ce que c'est pas dangereux pour l'Union européenne de s'en prendre à un tel géant? On a vu que Barack Obama lui-même avait critiqué cette initiative européenne.
Bah, est-ce qu'il risque grand-chose à part de se casser les dents et d'être débouté juridiquement? Rien du tout, hein.
Je pense pas que Google ait...
Il peut y avoir de vengeance de Google, voilà, de représailles.
Parce que c'est un gros marché pour Google. Bah Google représente quand même 95% des recherches. Et sur Android a aussi une grosse part. Donc, faut pas négliger ça. Ils seraient éventuellement prêts à négocier, je pense, si la commission n'est pas trop dure, pardon, dans la négociation.
Oui, je me souviens plus du tout comment s'était soldé le cas de Microsoft que tu évoquais dans les années 2000.
Ouais, condamnation. 400 millions, il me semble, 400 millions d'euros de condamnation, donc c'est pas rien.
Oui. Mais est-ce que c'est beaucoup pour Microsoft?
Non, c'est sûr. Ça a quand même eu des effets sur Internet Explorer. À ce moment-là, c'était dominant. Aujourd'hui, c'est marginal, à tel point que ça a été quand même abandonné, Explorer. Donc ça a eu des effets. Pas tant dans la manne, mais dans la réorganisation nécessaire.
Moi, je trouve ça encore... entre guillemets, sans que des institutions politiques puissent attaquer des géants économiques, quelle que soit leur taille, etc., pour faire valoir le droit. Quoi.
C'est pas oui, c'est un signe encourageant pour la démocratie.
C'est pas une zone de non-droit, l'économie.
Oui. Puis on reproche souvent à l'Union européenne d'être assez peu démocratique. C'est une critique qu'on lui fait souvent. C'est vrai qu'effectivement, c'est peut-être un peu salutaire de voir une institution comme ça s'en prendre à un géant aux pratiques contestables. Alors maintenant, on va aborder le sujet brûlant et douloureux de ces derniers jours. Donc le naufrage de ces migrants et le nombre de victimes qui a été extrêmement important. Alors en Italie, on a le sentiment que ça a vraiment choqué l'opinion italienne encore plus que les autres. Elle avait déjà été assez éculée par Lampedusa il y a quelques années, par le naufrage de ce paquebot. Large des côtes.
Ils sont en première ligne. Et puis aussi, je ne l'ai pas dit dans la chronique, mais le fait que l'opération Triton ait beaucoup moins de moyens que Mare Nostrum, ça montre aussi peut-être que tous les pays européens ne se sentent pas impliqués ou concernés par ça, alors que pourtant ça devrait être une politique globale. Et je regardais, je crois que c'est le nombre de visas accordés aux migrants. Enfin, tout le monde ne joue pas le... Je crois que l'Allemagne en a accordé 30 000. L'année dernière, alors que l'Angleterre en a accordé 143, tout le monde ne fait pas le même, ne joue pas le jeu en fait. Et donc après, il y a forcément l'Europe a du mal à. C'est pour ça que c'est dur aussi d'accuser l'Europe, qu'après à l'intérieur de l'Europe, tout le monde n'est pas.
C'est encore un problème finalement lié à la gouvernance même et au système de l'Union européenne qui a
et
du
on
mal.
On en revient toujours là. Hein.
Oui, c'est vrai qu'à chaque fois, on en revient toujours à ce problème de fond de l'Union européenne.
Parce que là, on refile tout à l'Italie, à la Grèce dans une moindre mesure, et puis hop, c'est tout. Alors l'Italie fait avec ses pauvres moyens, en plus
en temps de disette économique, des investissements pour des migrants, c'est pas du tout d'actualité.
Et puis ça passe mal auprès.
Et ça passe mal auprès des populations. Enfin, c'est.
Bah oui, puisqu'il y a encore une fois, je sais pas si vous avez entendu ça, mais sur France Inter il y a quelques jours, il y avait Stéphane Ravier, donc le maire Front National de je ne sais plus quel arrondissement de Marseille, qui. Qui évidemment se disait ému par ce drame et versait des larmes de crocodile, mais nous disait que c'était de toute façon la faute des gouvernements français et européens depuis 40 ans et qu'il y avait cet appel d'air de l'immigration et on en revenait à cette rhétorique classique.
Mais après, je trouve que c'est très dur en fait, parce que là, je trouve ça très abstrait en fait. 800 migrants qui meurent en Méditerranée, bizarrement, là, on s'identifie moins en fait à un accident d'avion, à des gens qui nous ressemblent, etc. Enfin, c'est bizarre à dire, mais c'est comme ça, et c'est malheureusement comme ça. Et donc sur E89, le fameux article, il disait qu'une des pistes était aussi de recueillir les témoignages des survivants pour susciter une
plus de compassion dans
plus
les
de
opinions
compassion
publiques,
dans les opinions publiques, parce que l'opinion publique a peur aussi, hein. Enfin, ça fait peur quand on voit cette, enfin, c'est vrai aussi, hein, les bouleversements que ça peut induire, etc. Il faut réfléchir à tout ça, et c'est très compliqué.
Et puis tout ça est replacé aussi dans le contexte des changements géopolitiques qui ont beaucoup affecté la Méditerranée ces dernières années. La guerre contre Kadhafi et puis l'explosion complète de la Libye ces dernières années. La guerre au Mali où là aussi l'État malien a complètement explosé.
À Syrie où on n'est pas intervenu et finalement on aurait peut-être mieux fait d'intervenir.
Oui, mais Bachar el-Assad est redevenu fréquentable. Ne faisons pas de mauvais esprits.
D'après David Pugelet.
Alors il est temps de conclure, chers auditeurs, ce quatrième numéro du journal radiophonique Amplifié. Alors, un numéro un petit peu particulier dans la mesure où on a eu quelques petits problèmes d'organisation. Céline n'a malheureusement pas pu être là pour la discussion avec nous. Néanmoins, vous nous retrouverez la prochaine fois pour le prochain numéro au complet, comme d'habitude, autour de la table. Merci à tous, à vous, pour votre participation toujours aussi active et pour vos chroniques toujours aussi bien préparées. Merci à ENS Média et à Léo pour la technique. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous écouter. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain numéro.